marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'histoire dans les jeux vidéo.
Les balles sifflent, le sol vibre, vos compagnons appellent à l'aide. Avec ces jeux, vous êtes au cœur de la bataille. Call of Duty vous embarque en pleine Seconde Guerre mondiale. Dans la peau d'un fantassin, vous irez des plages normandes, aux portes de Paris.
Les jeux vidéo attirent peut-être 20 millions de joueurs en France. Quand on a été un enfant des jeux vidéo, on le reste. La génération Game Boy grandit et l'âge des joueurs s'élève. Grâce aux téléphones mobiles, aux tablettes tactiles, les jeux sont accessibles plus souvent. Les dépenses afférentes augmentent en conséquence. Depuis une dizaine d'années déjà, la principale industrie culturelle se tient là. Le chiffre d'affaires du cinéma est dépassé, mais pas le modèle que celui-ci constitue encore. Et comme le cinéma, les jeux vidéo puisent bien sûr dans l'histoire. Voici le passé informatisé après avoir été filmé. Filtré de toutes ses complexités, il peut délivrer des messages politiques aussi puissants que simples. Exploité habilement, il peut donner lieu à des profits importants. Le professeur Ferguson, grand consultant en la matière et qui combine parfaitement exercice académique et exercice économique, ne dit-il pas « L'histoire, c'est aussi un business ». La phrase est étrange et difficile à prononcer. Thomas Rabineau, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous participez à ce grand exercice de la revue Le Débat, dont nous parlions déjà hier. Il y avait eu un numéro 175, le difficile enseignement de l'histoire, et maintenant le numéro 177 qui vient de paraître aux éditions Gallimard parle des transformations inouïes que connaît notre culture du passé, notamment, c'est le thème de votre article, par les jeux vidéo. On entendait un extrait en chapeau de Call of Duty. 130 millions d'exemplaires dans le monde, dites-vous ?
130 millions en déclinaison de 10 épisodes, 10 variantes du jeu, qui est apprécié pour son niveau de réalisme, pour le dynamisme de sa jouabilité, pour en gros le réalisme aussi des situations qui sont recréées, réalisme dont on va discuter sans doute. Et on a justement 130 millions de joueurs, mais en plus d'acheteurs, on peut ajouter en plus les personnes qui ont piraté le jeu.
C'est dire l'importance du phénomène. Alors on va être dans la jouabilité, c'est le mot que vous avez utilisé. Et si vous le voulez bien, dans un premier temps, on va essayer de se convaincre que les jeux vidéo, c'est un progrès extraordinaire. Premier argument, par rapport à leur début, il y a une génération, que de finesse gagnée, que de réalisme, pour employer le mot que vous utilisiez, conquis.
On doit ça vraiment à l'amélioration des capacités techniques, c'est-à-dire que quand on regarde un des premiers jeux qui s'ancre dans l'histoire, c'est Castle Wolfenstein, on est en 1981, on a un petit personnage qui évolue dans un décor très très flou, et il faut faire confiance au concepteur du jeu pour lire en gros les présentations des étapes des parties qui nous disent voilà, vous êtes un soldat allié et vous devez vous échapper d'une forteresse nazie. Mais ça, on ne pouvait pas le savoir, c'était pas flagrant. Et puis au fil du temps, dans les années 80, on a des jeux qui deviennent de plus en plus ancrés vraiment dans des périodes bien définies. Je pense à 1942 par exemple, au milieu des années 80, qui permet de piloter un petit avion. Ça change des éternels vaisseaux spatiaux, un petit avion américain, et on va combattre les Japonais. Alors le réalisme n'est pas du tout au rendez-vous, les porte-avions ne ressemblent pas à grand-chose, on en a un nombre incroyable. Les décors ne ressemblent pas non plus aux décors d'époque, mais plus on avance et plus on progresse vers un réalisme qui permet d'intégrer des scénarios complexes qui s'ancrent vraiment dans la réalité historique.
Il ne faut pas croire qu'il n'y ait que des jeux de tir. C'est celui que vous venez de citer à l'instant. Il y a aussi des jeux de stratégie, enfin tous les types.
Oui, tous les
jeux,
types de jeux
ont des variantes historiques possibles.
Oui, des jeux de stratégie, donc évidemment des jeux de tir, on a même des jeux de sport. C'est... Tous les domaines sont touchés pour une bonne et simple raison, c'est que un joueur de jeu vidéo tient à s'immerger dans sa partie. Et quoi de mieux que de faire appel à des connaissances communes, à une culture commune, à une histoire, à des repères qu'on connaît tous. Et donc, sur ce plan-là, c'est extrêmement efficace.
Et toutes les époques sont concernées. Vous avez parlé de la Deuxième Guerre mondiale, on y reviendra tout à l'heure, mais il peut y avoir
la préhistoire,
qui se passe dans la préhistoire, dans l'Antiquité.
L'Antiquité, toutes les périodes, mais on constate qu'il y a une écrasante domination des jeux qui s'inscrivent dans la période contemporaine.
Mais on va, nous, progresser dans le temps plus prudemment encore que vous ne le dites. Il y a des jeux qui s'inscrivent dans le Moyen-Âge. Assassin's Creed, par exemple, a commencé à l'époque des croisades, mais dans les chapitres, les épisodes suivants, on parvient à la Rome de la Renaissance. La Rome de la Renaissance, c'est évidemment celle des Borgia.
Outre les Borgia, on y croise aussi Léonard de Vinci ou encore Machiavel. Au-delà des personnages, c'est la Rome du début du XVIe siècle qui est reproduite. Pour ce faire, de nombreuses recherches aidées par des historiens ont été nécessaires pour effacer les marques du temps et les pillages successifs des monuments.
La ville de Rome a vécu plusieurs évolutions au cours des cinq derniers siècles. Ça a été difficile de trouver de la documentation assez précise sur les routes, les bâtiments. Bon, on connaissait déjà les monuments, mais même ceux-là ont changé considérablement. Entre autres, le Colisée, dont le marbre était utilisé pour construire Saint-Pierre de Rome.
Le Colisée, comme le Panthéon, le Forum romain ou le Château Saint-Ange sont les éléments clés de la ville reproduite dans le jeu. Une ville dont l'échelle a été réduite pour des contraintes techniques. Le Colisée, par exemple, voit sa taille diminuer et sa forme elliptique transformée en cercle.
Le cercle parfait permet d'avoir des morceaux semblables, similaires et égaux. Donc dans le fond, ça nous permettait d'avoir un, deux, trois morceaux qui ont pas mal la même forme, puis qui pourraient être répétés.
Autre arrangement avec l'histoire, le dôme de la basilique Saint-Pierre n'était pas en construction à l'époque où se déroule l'aventure, mais 50 années plus tard. En revanche, les graphistes ont tenu à reproduire fidèlement l'aspect des costumes, des armes et inventions de l'époque. Ezio, par exemple, s'essaie au canon naval créé par Léonard de Vinci ou encore à l'utilisation des premières armes à feu.
Assassin's Creed, c'est un produit d'Ubisoft. Mais je croyais, on dit souvent ça, que Ubisoft, c'était français, mais c'est passablement canadien, non ?
Oui, le plus gros des activités se situe à Montréal.
Oui. Alors dites-moi, des historiens sont convoqués pour travailler avec Ubisoft, par exemple. Vous citez le nom d'un étudiant de Montréal qui s'appelle Maxime Durand. Il n'a pas fini ses études d'ailleurs avant de rejoindre une brigade d'Ubisoft. Il y a plus de 80% des étudiants en histoire en France qui ne se retrouvent pas dans l'enseignement. C'est un job possible alors ?
Oui, c'est un job possible. Alors évidemment, réservé à une toute petite minorité de ces étudiants. L'avantage, c'est qu'ils vont apporter à la fois leur connexion avec l'univers des jeux vidéo, ce sont des joueurs, et également une connaissance du passé, et essayer de produire un cocktail qui va être vendeur. Et dans le cas d'Assassin's Creed, c'est extrêmement bien réussi. Hein, la modélisation d'une ville, par exemple, comme Florence, à l'époque de la Renaissance. Alors évidemment, modélisation perfectible, hein, c'est pas exact, mais tout ça génère un parfum de réalisme, d'authenticité, tout ce qui est justement recherché par un joueur qui veut vraiment s'immerger dans sa partie. Pour Assassin's Creed et le fameux Ezio, justement, on a une séquence comme ça qui est à laquelle on assiste. On le voit prononcer un discours qui est typiquement humaniste, le discours humaniste de la Renaissance avec le libre arbitre, le choix de l'homme qui est libre face à son destin, etc. Et on a vraiment ces stigmates du passé, ces marqueurs, ça qui apporte finalement des connaissances aux joueurs et qui lui permettent d'être vraiment impliqué dans ce jeu.
Ben, vous avez prononcé le mot libre arbitre. Ce qui est bien, voilà un argument en faveur de la représentation de l'histoire dans les jeux vidéo, c'est que le joueur dispose d'une possibilité de choix. Il est exactement dans la situation du contemporain de l'époque qui est représentée. Il ne sait pas à quoi va aboutir le temps qu'il vit et il agit dans le temps. On est maintenant toujours avec Assassin's Creed, mais au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle, à l'époque des pirates.
Comme pirates en ces mers hostiles, Tu m'as appris à vivre libre. Et à mourir avec honneur.
Tous à vos postes, barrez les canons!
Fais-nous voir comment rugit cette bête!
Donc, comme vous pouvez voir, derrière moi, il y a un grand navire de guerre qui est à peu près de l'époque de la Révolution américaine. Pour vous parler des batailles navales qu'on a incluses dans le jeu, pour nous, c'était important d'offrir du gameplay intéressant pour les joueurs. Donc, vraiment d'être aux commandes du navire, mais à partir de la troisième personne. C'est quelque chose qui n'avait jamais été fait dans les jeux vidéo, donc on voulait donner vraiment cette fantaisie-là aux joueurs et être capable à tout moment de juste laisser aller le gouvernail, de se promener sur le quai, voir les hommes recharger les canons et tout ça. Donc c'est un peu vraiment la fantaisie d'être un capitaine de bateau, d'être aux commandes qu'on voulait donner aux joueurs, d'être capable d'ajuster ses voiles, de décider avec différents types de boulets de canon, tirer sur les ennemis, etc. C'est vraiment le genre de rêve qu'on voulait offrir aux joueurs.
Alors, il peut y avoir une confusion entre les bateaux de la Révolution américaine, les bateaux des Caraïbes quelques décennies plus tôt, mais c'est juste une fantaisie. L'important, c'est de pouvoir tenir le gouvernail. Et ça, c'est une vraie leçon d'histoire.
Oui, bah le joueur qui se retrouve comme ça libre d'agir dans une période donnée à partir de paramètres qui sont les plus historiques possibles avec des contraintes de jouabilité, faut que ça reste amusant, faut que ça reste prenant. On est bien juste dans le fond finalement de l'histoire, c'est-à-dire comprendre l'état d'esprit d'un contemporain, s'immerger dans son environnement et essayer d'agir comme ce qu'il aurait fait. Alors évidemment, il y a une part de rêve, de mirage, puisque on reste nous-mêmes dans notre époque, on sait comment les événements se sont produits dans les époques concernées par ces jeux. Donc évidemment, il y a des limites à tout ça.
Mais l'idéal, c'est quand même de se tenir dans la position de celui qui ne sait pas ce qui va se produire.
Oui, et de modifier un maximum le cours de l'histoire. Et ça, c'est souvent un argument de vente pour les producteurs de jeux vidéo. Ils disent, voilà, vous partez d'une situation donnée et vous allez faire l'histoire, votre histoire. Et puis vous avez d'autres jeux où justement, il est question de se conformer au déroulement de l'histoire.
Mais si on prend la première hypothèse, on est dans l'uchronie.
Oui, dans l'uchronie.
On peut modifier le temps.
Voilà, un procédé uchronique qu'on retrouve en littérature, qu'on retrouve au cinéma, et également en jeux vidéo, et même en histoire, avec des historiens qui s'adonnent à l'uchronie en partant d'hypothèses. Exemple, si la France n'avait pas signé l'armistice en juin 40, qu'est-ce qui se serait passé? On a comme ça beaucoup de prospectives virtuelles qui sont menées, et dans le jeu vidéo, on propose au joueur de la réaliser lui-même.
Bon, on n'est pas loin de recommander là, la pratique des jeux vidéo à nos auditeurs. On est rarement dans une position de prescripteur quand même, à la marge de l'histoire. Là, exceptionnellement, je voudrais signaler quand même la qualité des gentils lapins crétins.
Ah oui, indispensable.
Une attraction va être ouverte au Futuroscope de Poitiers à l'occasion des vacances de fin d'année qui leur est consacrée. Ils sont blancs, avec une grande bouche, des yeux globuleux, et ils remontent maintenant le temps.
L'histoire, l'ultime frontière. À bord de leur machine à laver le temps, les lapins crétins vont envahir le passé. Là où aucun autre lapin n'avait encore posé une patte.
Crétinisez les plus grands moments de l'histoire avec les lapins crétins. Déguisez votre lapin avec plus de 30 costumes d'époque et jouez à plus de 25 nouveaux mini-jeux. Semez la panique à bord du Titanic! Voler à travers la Renaissance! Faites la course avec le roi Arthur! Et oui, ces crétins de lapin seront bien de retour!
You've got to know this one thing.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Maintenant disponible sur France Inter.
Avec Thomas Rabineau, nous parlons de l'histoire dans les jeux vidéo. Un numéro de la revue Le Débat est consacré aux nouvelles cultures du passé et vous y avez publié un article. On entendait les Village People, on va dédicacer Village People à Patrick Boyer.
Absolument. Hein,
et nous étions là en 78. On va passer maintenant aux jeux vidéo tels qu'ils se développent dans les années 1990. On va entrer dans le dur du sujet, si vous voulez bien. On peut prendre un exemple, c'est Civilization. Alors, il s'agit de conduire une nation, une civilisation dans l'épreuve du temps, depuis l'âge de pierre jusqu'à l'âge spatial.
La plus moderne. En gros, on contrôle un territoire qu'on doit étendre. C'est un jeu de stratégie qui inclut de très nombreux paramètres, hein, climatiques, sociaux, économiques.
Le territoire est divisé en carrés.
Voilà.
Chaque carré produit des ressources naturelles.
Et chaque joueur, donc on joue à tour de rôle, si on est en mode multijoueur ou contre l'ordinateur. Et le but étant de prospérer. Mais le cœur du propos, le cœur du jeu, c'est finalement d'être le plus puissant possible. Et tout cela passe par la levée d'armées les plus massifs possibles.
Oui, mais il n'y a pas que les armées, il y a les caravanes de commerçants.
Oui, évidemment. En fait, tout ce qui peut générer de l'argent, de la puissance économique, voilà, va être immuablement transformé en armée pour conquérir des territoires.
Mais
pour être
on
le plus
peut être
possible.
À la tête, quand on est joueur, des Zoulous, des Indiens, des Babyloniens.
Des Sumériens.
Des Français, des Anglais, des Américains.
Voilà, c'est extrêmement varié. Et c'est ce qui a fait aussi le succès de cette franchise.
Alors, imaginons-nous dans la peau du joueur qui veut tenir le destin du monde par la puissance de sa nation, de son ethnie ou de sa civilisation.
Il vient parfois un moment dans l'histoire, un moment rare où nous passons de l'ancien au nouveau, où une ère prend fin et où l'esprit d'une nation, longtemps réprimée, parvient enfin à s'exprimer.
Construire le courage lorsque le courage vient à manquer. Retrouver la foi lorsqu'il y a peu de raison de croire. Créer l'espoir lorsque tout semble perdu.
Je n'ai jamais appris à accorder une harpe ou à jouer du luth. Mais je sais comment faire atteindre à une petite ville inconnue la gloire et la grandeur. Et comment en faire le centre du monde.
Les grandes questions de notre époque ne trouveront pas de réponse dans les discours et les votes de majorité, mais dans le fer et le sang.
J'ai vu l'incroyable énergie des masses. Et sur cette fondation, il est possible d'accomplir n'importe quelle tâche.
L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves.
Mais alors, ceux des joueurs qui entrent dans cet habit-là, on est quand même effrayés du rôle qu'on leur fait jouer. Les grandes questions ne trouveront pas de réponse dans les discours et les votes de majorité. Il faut s'appuyer sur l'incroyable énergie des masses. Je ne veux pas être moralisateur, mais quelle est la différence entre le discours du fascisme et celui-ci ?
Il n'y en a pas. Hein. Disons que là où c'est extrêmement pernicieux, c'est que les règles qui sont imposées sont celles-ci. C'est-à-dire que la prospérité ne va s'acquérir que par les armes, que par le combat, la guerre finalement, qui va être la solution à tout. Et dans ce registre-là, on touche au cœur d'une thématique récurrente dans les jeux vidéo, c'est ce recours à la guerre qui est extrêmement présent pour une bonne et simple raison, a priori, c'est toujours, encore et toujours, cette jouabilité. C'est plus dynamique de faire la guerre que de faire pousser des cultures de blé,
de déplacer la caravane.
Absolument.
D'un carré à l'autre.
Voilà, la finalité économique ou commerçante culturelle ne suffirait pas. Oui. Ça se transforme toujours en guerre.
Mais la main du plus fort ne tremble pas quand elle tranche de l'épée la vie des autres. Et les autres, s'ils meurent, c'est qu'ils sont en situation d'échec. La mort, c'est juste leur échec.
Voilà, c'est finalement la sanction pour quelqu'un qui est trop faible. Et il est vrai qu'il y a un message totalitaire dans ce discours. Et ce message, on le retrouve dans de très nombreux jeux qui s'inscrivent dans une période beaucoup plus moderne, comme la franchise des Call of Duty, où on explique que nous sommes l'armée la plus puissante du monde, en l'occurrence l'armée américaine. Nous sommes là pour vous donner les moyens de vous libérer. Nous sommes là pour vous donner les moyens d'être vous-même, de vous émanciper, etc. Et il y a toujours c'est ce même discours, finalement, qui est un discours très politique, mais aussi très dangereux.
Discours inhumain que vous qualifiez de discours souvent américain. Enfin, la version guerre froide, néoconservatrice de la pensée américaine. Vous avez d'ailleurs beaucoup écrit sur le sujet de Thomas Rabineau dans votre livre qui est maintenant disponible chez Tempus aux éditions Perrin et qui s'intitule « De la guerre en Amérique ».
Oui, on constate que dans ce registre, dans le registre de la culture de guerre, les jeux vidéo ont pris une ampleur considérable. C'est-à-dire que comme il s'agit d'un média interactif qui a encore plus d'impact dans son message, ce qu'on constate, c'est que tout simplement, il y a eu des partenariats qui se sont mis en place dans les années 90-2000 entre le Pentagone et l'industrie du jeu vidéo. Le Pentagone a développé des studios. Un studio, l'Institut Moves, pour créer ces jeux vidéo qui vont être à la fois des outils de propagande, qui vont donner une image positive de l'armée, qui vont instruire aux us et coutumes de l'armée leurs joueurs, mais aussi donner des rudiments de connaissances dans le maniement des armes, dans le combat urbain. Et tout ceci va produire son effet pendant les premières guerres qui se produiront à l'heure des jeux vidéo, c'est-à-dire les guerres d'Afghanistan et d'Irak.
Mais ces jeux produits ou inspirés par l'armée américaine sont disponibles sur une plateforme gratuite et la banque de données qui est constituée avec les inscriptions des gens qui veulent les voir sert de vivier de recrutement.
Alors, en ce qui concerne les joueurs qui sont aux États-Unis, oui, c'est un élément parmi d'autres. Disons que le jeu lui-même oriente vers le recrutement. Quand on joue à ce jeu, il y a toujours une partie de l'écran qui renvoie au site de l'armée américaine et qui permet de contacter le bureau de recrutement le plus proche.
Rejoins une équipe gagnante, qu'attends-tu, soldat ?
Voilà, le vocabulaire en fait du jeu est absolument le même que celui de la réalité. Et tout est fait pour gommer ces différences jusqu'à finalement la mise au point d'armes qui sont le prolongement sur un plan ergonomique des jeux vidéo. Alors on pense l'exemple le plus abouti étant les drones, le système des drones, ces opérateurs de drones qui sont maintenant plus nombreux à être formés que les pilotes classiques hein, et qui finalement tuent à des milliers de kilomètres par écran interposé.
Oui, mais enfin, on vous dira, Thomas Rabineau, n'importe quel grand militaire vous l'expliquera, qu'on ne fait pas les meilleurs soldats avec des addicts des jeux vidéo.
En tout cas, on peut en attirer une bonne partie dans les rangs de l'armée, à condition que le contexte, l'environnement général s'y prête.
C'est-à-dire mais un bon soldat, c'est celui qui n'aime pas la guerre.
Ça dépend de quel côté on se situe. Un bon soldat, ça va être d'abord quelqu'un qui va aussi être capable de tuer sans en ressentir les effets sur un plan psychologique. On a de nombreux témoignages de soldats américains qui étaient en Irak qui disent « Quand j'ai joué, j'ai tiré, c'était comme un jeu vidéo grandeur nature, c'était fun, c'était la même chose. »
Alors d'un côté, dans De la guerre en Amérique, vous dénoncez les liens entre les établissements d'enseignement et l'armée américaine. Et dans votre article du débat, cependant, vous expliquez qu'il y a peut-être une réappropriation pédagogique dans nos établissements scolaires du jeu vidéo, ce que certains secteurs du ministère de l'Éducation nationale s'emploient à faire avec le peu de moyens et l'esprit de sérieux qui les caractérise.
Une légion d'enfants partis pour apprendre la Rome antique, comme s'ils y étaient.
Il est où le cirque ?
Cette classe de CE2 CM1 expérimente les jeux vidéo sérieux.
Où est-ce qu'on les a mis les termes ? À quoi ils servaient l'amphithéâtre ?
C'est-à-dire utilisés en classe pour l'apprentissage. Le but ici, construire une cité romaine avec ses bâtiments, ses habitants.
Au lieu d'apprendre avec des cahiers, de faire des exercices, là tu joues donc...
Et ça fatigue moins.
Par contre, ça fatigue plus les yeux.
La cité romaine, c'est l'histoire, mais c'est pas uniquement l'histoire, c'est de la lecture, c'est aussi de la production d'écrits. Donc, ils vont après décrire leur cité romaine, donc ça permet de travailler plein de champs disciplinaires.
Université Paris 6. Dans ce laboratoire, l'équipe travaille sur de nouveaux jeux pédagogiques entre création et enseignement. Car pour être validés, les jeux doivent suivre les programmes officiels.
C'est encore très marginal, notamment en France, mais ça progresse. Il y a de plus en plus d'enseignants qui commencent à développer des scénarios, à expérimenter le jeu vidéo en classe.
D'accord. Du primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, le jeu vidéo sérieux s'appuie sur la théorie, puis sur la pratique.
Bah, c'est mieux qu'un prof qui parle tout le temps, c'est plus vivant.
Une mauvaise note se traduira peut-être bientôt par Game Over, partie terminée.
Mmh. Ouais, France 2, 2006, Thomas Rabineau.
Mais alors, on a effectivement cette pratique qui tend à se développer, mais ça reste très marginal. On a par exemple des professeurs qui vont utiliser des jeux qui ne sont pas conçus à cet effet, comme par exemple les Assassin's Creed, pour faire visiter un monument de l'époque et finalement présenter un certain degré de réalisme. Maintenant, ça pose différents problèmes. Par exemple, les élèves, quand ils sont plus âgés que ceux qu'on a entendus tout à l'heure, ben, ont tendance à considérer que les leçons d'histoire et s'amuser à un jeu vidéo, c'est pas la même chose. Donc les résultats sont rarement à la hauteur. On a le blog d'une professeure qui explique sa déception. Et d'un autre côté, on a aussi une hiérarchie qui peut être suspicieuse, un encadrement scolaire qui va être dubitatif. Donc tout ceci est compliqué, mais ce qu'on peut imaginer, c'est qu'avec les progrès considérables du jeu vidéo, ces progrès exponentiels, on va arriver à un moment où on aura des possibilités qui seront infinies et il n'y aura plus besoin de rendre le Colisée rond et de passer par de nombreux raccourcis et d'approximations pour avoir une véritable portée pédagogique.
Dans notre équipe, c'est Frédéric Martin qui a préparé cette émission, mais Ilinka Negulesco, qui lui appartient, fait remarquer les filles, moi j'élève des filles, dit-elle, sont largement indemnes de ce genre de jeu. C'est peut-être pas la peine de les introduire à l'école. Je signalerai aussi à la réalisation Stéphane Ronxin, la technique aujourd'hui, Xavier Chocron. Demain, on parle de Beria, celui dont Staline, dont il était le numéro 2, disait, le présentant aux Allemands, « Voilà mon Himmler !»